Comment la vie est-elle apparue sur Terre?
On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent.
Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils n'ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans.
So, I had an idea.
Le siècle des ampoules.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Siècle des Ampoules en compagnie de Kenneth Bertrams. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Mais merci à vous.
Alors Kenneth Bertrams, vous êtes diplômé en philosophie, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Vous enseignez l'histoire économique et l'histoire des sciences et des techniques. Vous êtes un historien des sciences et de l'industrialisation et vous avez récemment collaboré sur la valorisation des archives des conseils Solvay qui viennent d'entrer au registre international du patrimoine mondial de l'UNESCO, mémoire du monde. Alors des archives composées de lettres écrites de la main d'Albert Einstein, de Marie Curie, des photographies aussi assez iconiques, hein. Autant d'archives réunies par le Solvay Science Project. Est-ce que vous pouvez peut-être en préambule de cette émission nous dire deux mots sur ce projet?
Vous avez d'abord tout résumé, hein, j'ai plus grand chose à dire. Non, alors ce Solvay Project, de quoi s'agit-il? Alors en fait, ça fait des années hein, que l'ULB et la VUB, parce que c'est vraiment un projet conjoint, j'en reparlerai s'il faut, on la garde hein, et conserve précieusement ces archives des instituts internationaux de physique et de chimie Solvay, qui sont à l'origine effectivement de ces rencontres de savants. La première a eu lieu en physique en 1911, il faut attendre 10 ans plus tard pour la chimie, et puis depuis ça continue. Et elle veille jalousement, mais aussi pour le bien des chercheurs, à ce qu'on puisse consulter ces archives. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu faire un Solvay Science Project, hein, puisque c'est la question? Parce que tout simplement, les choses évoluent. Les besoins des plus jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, sont plutôt des besoins, un petit peu, on va dire, virtuels. Et il y a, depuis pas mal d'années, un véritable boom et une attention pour ce qu'on appelle les expositions virtuelles. Et alors là, l'idée, c'est de le faire pour les conseils de physique et de chimie, comment c'est né, comment ces conseils ont traversé la guerre, qui sont les grands personnages, mais aussi les moins grands personnages qu'on oublie un peu, et surtout, qu'est-ce que ça éclaire de l'évolution des sciences et des techniques. Et alors, on a voulu d'abord faire ça, et puis rapidement, le Solvay Science Project aussi, c'est une façon de mettre à la disposition de tous ceux qui sont intéressés, je pense d'abord aux chercheurs, mais plus généralement au grand public, eh bien, en effet, des pièces importantes de la collection d'archives. Donc, il y a deux choses. Une vitrine, qui est l'exposition virtuelle, mais également une base de données qui permet d'avoir accès directement aux archives et dont certaines pièces, vous les avez mentionnées, sont de la main d'Einstein, Marie Curie, Max Planck et autres.
Alors ce site internet qui est très bien fait, d'ailleurs on mettra le lien sur le lien du podcast. Alors nous plonge hein, véritablement dans l'histoire de ces conseils Solvay. Vous l'avez dit, le premier se tient en 1911, alors à un moment charnière hein, de l'histoire des sciences, sous l'impulsion d'un homme, Ernest Solvay, bien que l'idée n'émane pas directement de lui, on en reviendra peut-être un peu plus tard. Pour commencer, peut-être qui était-il? C'est vraiment un homme de son temps, c'est un grand industriel, passionné des sciences.
Ah oui. Mais alors quand on dit ça, on voit toujours Ernest Solvay avec sa barbe blanche et un peu déjà le personnage accompli. Mais il faut pas oublier que en fait Ernest Solvay devient celui qu'on connaît parce qu'il quand il a à peine 25 ans, quand il fait la découverte ou la redécouverte d'un procédé qui va faire sa fortune et de son empire industriel, c'est-à-dire le carbonate de soude. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est encore aujourd'hui, mais en gros, l'idée du carbonate de soude, c'est une sorte de produit intermédiaire qui intervient dans la fabrication du verre, des détergents. C'est un neutralisant chimique. Et donc, on en a vraiment besoin à des fins industrielles, c'est pas très visible, c'est pas comme si le consommateur le voyait directement dans les rayons de son supermarché, mais ça va vraiment bouleverser l'industrie, ça va être une grande redécouverte, je disais, parce qu'en fait, on connaissait un peu le procédé, mais personne n'était parvenu à l'industrialiser comme il l'a fait. Et donc ça a demandé une dizaine d'années pour que ça soit bien mis au point, avec beaucoup de tensions entre les bailleurs de fonds, les partenaires et autres, mais une fois que ça a été stabilisé, une fois qu'il est parvenu à en faire un vrai produit commercialisable, là, ça a été une expansion incroyable, tout au niveau européen, avec des partenariats jusqu'en Russie, aux États-Unis. C'est devenu la plus grande industrie. En fait, on a tendance à l'oublier. À un moment où aujourd'hui, l'entreprise Solvay existe toujours et se scinde en deux morceaux. Eh bien, Solvay, en 1900, était la plus grande entreprise chimique au monde en termes du nombre d'employés, à la veille de la Première Guerre mondiale en tout cas. Et donc, c'est ça qui fait la fortune d'Ernest Solvay. Mais le personnage, parce qu'on pourra en faire des tonnes et des tonnes sur lui, est quelqu'un qui est passionné de science. Et il n'a jamais été à l'université, il le regrettera toute sa vie, et c'est pour des raisons de santé, hein, mais il reste frustré. Il a une relation, je dirais, ambiguë avec les universitaires, qu'il adore d'un côté, qu'il vénère, mais qui n'ont pas été tendres avec lui non plus au début. Hein, quand il avait 25 ans, les fameux consultants en chimie l'ont complètement déconseillé et découragé, et lui a persévéré. Donc ça, il ne l'oubliera pas. Mais en tout cas, il reste très, très ouvert à l'idée de collaboration dans le monde de la recherche. Et c'est la raison pour laquelle il va être un des grands, grands mécènes, un grand philanthrope de la science quand il voudra absolument se destiner lui-même à des recherches personnelles. Parce que c'est ça qu'il va faire aussi. De plus en plus, il aura son labo particulier, et il voudra faire des recherches privées, et il va se dire aussi, tiens, ça vaut la peine de voir ce que d'autres grands physiciens et chimistes en pensent, et c'est peut-être ça aussi la raison de son intérêt pour ces fameux conseils de physique et de chimie.
Alors ce premier conseil de physique est en fait l'idée hein, d'un physicien allemand, Walther Nernst, qui, comme beaucoup de ses pairs hein, d'ailleurs à l'époque, bute sur les théories classiques, car elle n'arrive pas à expliquer certaines des découvertes récentes. Alors pourquoi est-ce qu'il se tourne vers Solvay, et aussi pourquoi Bruxelles, il y a un contexte particulier à l'époque?
Ah oui, complètement. Donc en gros, Walther Nernst, comme vous l'avez dit, il est prof à Berlin, il y a plein de choses qui se passent. On est vraiment au tout début d'un bouleversement, d'une nouvelle référence en matière scientifique, en physique en particulier, parce qu'à l'époque, la distinction entre chimiste et physicien est encore un tout petit peu poreuse, hein, on va dire. Et il se rend compte que avant de commencer à mettre en place des grandes conférences comme il y en avait en chimie, beaucoup moins en physique, il s'est dit, tiens, il faudrait quand même inviter une série de physiciens pour discuter de ses premiers travaux que ses collègues en Allemagne, en particulier Max Planck, ont démarré, mais aussi un jeune physicien qui sera promu à un grand avenir, Albert Einstein. Et il s'est dit, tiens, il faudrait peut-être le faire en petit comité. Et c'est donc lui qui se dit, j'aimerais bien qu'on organise un tel événement. Il faut des sous, il faut quand même une certaine reconnaissance aussi. Et il a entendu parler d'Ernest Solvay, non seulement en tant qu'industriel, mais aussi que grand mécène scientifique, un an avant qu'il envoie sa lettre à Solvay. Nernst avait reçu Ernest Solvay à Berlin pour lui remettre une médaille de reconnaissance, comme on fait à l'époque. Voilà. Et donc, l'échange commence par le biais d'un intermédiaire qui était d'ailleurs dans le laboratoire de Nernst. Et au final, Solvay marque son intérêt et se dit, tiens, oui, moi, ça m'intéresse aussi. Mais il pose une condition. Et la condition, c'est que ça ait lieu à Bruxelles. C'est lui, c'est Ernest Solvay qui dit, ça doit avoir lieu à Bruxelles. Ernest Solvay, il est à la fois un grand internationaliste convaincu, il se dit que vraiment les peuples doivent se connecter, doivent se parler au nom de la science universelle, et d'ailleurs son empire industriel, il est interconnecté, mais il est très patriote aussi. Et pour lui, il est essentiel que la Belgique devienne une sorte de phare au niveau scientifique, et Bruxelles doit jouer ce rôle-là d'après lui, parce que Bruxelles est un peu en concurrence avec l'AE aux Pays-Bas, avec Genève, voilà, donc voilà, c'est vraiment pour promouvoir Bruxelles. Et donc, il fixe les conditions. C'est lui qui reçoit quelques idées de grands scientifiques à inviter. Il y a d'autres personnages qui sont proposés, mais ils refuseront. Il y a la question des langues et tout. Mais en gros, si vous voulez, la logistique, ça part vraiment d'une collaboration étroite avec Ernest Solvay. Mais l'impulsion plutôt scientifique, ça, c'est vraiment, en effet, le physico-chimiste Walther Nernst qui le fera et qui va s'en ouvrir directement à Solvay pour organiser l'événement.
Et peut-être en quelques mots, c'est quoi les grandes questions qui agitent alors le monde scientifique à cette époque?
Alors les grandes questions, c'est vraiment tout d'abord les questions référentielles en matière de... C'est pas rien, hein, en matière physique. Est-ce que les nouvelles techniques d'observation, de mesure, permettent de garder un corps les repères de la physique mécanique de Newton. Alors, ça peut paraître énorme, hein, c'est pas pour dire qu'on veut mettre aux oubliettes la physique mécanique, mais quand même, les débuts de la physique quantique, ça offre avec tout ce qu'il y a comme nouvelles observations, les questions vraiment de luminescence, de radiation, c'est vraiment toute une série de travaux pour lesquels on n'est pas encore outillé. Et ce sont vraiment avant tout des théoriciens hein, qui essayent de comprendre ça, mais ils ont besoin aussi de l'appui d'autres physiciens qui, eux, sont plutôt chevillés avec des éléments un peu d'instruments et autres. Et donc, ils ont besoin de se parler pour se dire, est-ce qu'on va dans le bon sens ? C'est vraiment cette idée de se dire, on ouvre tellement des portes nouvelles qu'on a besoin d'être rassuré sur savoir est-ce qu'on a un langage commun, est-ce qu'on peut continuer dans cette voie. Et je ne vous cache pas que le premier conseil de physique qui est resté, en effet, avec la fameuse photo très iconique, c'est quand même d'abord et avant tout un dialogue de sourds. Hein. Ils sont pas d'accord, ils essaient de se dire, bah, bon, on nous a mis dans une pièce pendant plusieurs jours pour essayer d'en tirer quelque chose, et au final, bon, ils sortent hein, tous un petit peu en campant sur leur position. En grande partie, Planck, Einstein et Nernst, à la rigueur, se disent, bon, voilà, nous, on est convaincus que c'est bon. Les Français, Langevin et autres, se disent, bon, je suis pas vraiment tout à fait convaincu, moi, de mon côté, qu'il y a moyen d'aller dans cette voie-là. Et donc, il y a vraiment une sorte de rencontre qui s'est opérée, ça c'est vrai, mais on n'est pas tout à fait convaincu que ça va dans la bonne direction. Il faudra plusieurs années pour que de leur côté, séparément, les recherches se poursuivent. Et là, en tout cas, ce qui est génial, c'est que l'impulsion a été donnée à ce conseil Solvay pour vraiment que les langues se délient et qu'entre eux, ils continuent à correspondre pour valider ou bien invalider certaines théories. Donc ça, ça a été un élément décisif. Ça, comme on dit en anglais, ça a été un icebreaker. Hein. Ça a cassé la glace. Ils se sont dit, bon voilà, maintenant on se connaît, même si on ne parle pas la même langue, on essaye vraiment de communiquer, de poursuivre les discussions.
C'est donc un conseil de physique théorique hein, qui porte notamment sur la théorie des quantas. C'est quand même un événement majeur hein, qui réunit des scientifiques de haute volée. Il y a donc Einstein, Max Planck, Marie Curie, vous l'avez dit. Alors c'est souvent présenté comme le premier conseil de physique international. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ?
Oui, mais il y a plusieurs choses parce qu'il y a souvent un mythe. On dit, tiens, c'est le premier grand... En fait, non, il y avait déjà des rencontres avant qui se faisaient par des conférences et souvent avec des délégations nationales. Donc il y avait les Allemands d'un côté, et puis à l'époque... C'était même la Prusse, et puis la Bavière, et voilà, et puis du côté les Français, les Anglais et autres. Là, l'idée du conseil, c'est vraiment, si vous avez compris, c'est on va sélectionner avant les personnes et on va leur dire, on vous les invite. On vous invite à une rencontre, on dirait aujourd'hui un séminaire, un workshop, je ne sais pas comment on appellerait ça, pour réfléchir autour d'une grande thématique et vous devez préparer avant quelques travaux que vous entamez vous-même qui vont dans ces directions-là et qui permettraient de répondre à cette question. Et ça, la façon dont c'est organisé, ça a été vraiment novateur et ça a eu un impact décisif sur la suite et pour d'autres types de conseils ou de formats de workshops, en tout cas l'idée de la logistique et de la préparation.
Et donc la grande thématique qui est abordée lors de ce premier conseil, c'est la problématique du rayonnement du corps noir, qui a notamment été étudiée par Max Planck. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots.
Moi, je ne suis pas physicien, mais en gros, l'idée du rayonnement des quantas, ce sont des paquets de lumière. Et donc des paquets de photons qu'on va vraiment essayer d'explorer et d'analyser pour voir justement entre cette question de matière d'un côté et on va dire d'énergie, comment est-ce que ça peut révolutionner nos concepts et on parle vraiment de la grammaire de base de la physique hein, qui était cantonnée et qu'il a encore aujourd'hui pour plein d'aspects à la grammaire newtonienne et là on va quand même vers quelque chose d'autre. Alors la difficulté c'est comment mesurer ce qui relève en grande partie encore d'intuition hein. Donc, bien sûr, Einstein et Planck et d'autres font des mesures, font des observations, on le sait tout ça, mais il y a en grande partie, ça relève d'une intuition et donc ça doit être soumis à discussion et à débat. Et si ce genre de nouveautés en termes théoriques passent, là, ça bouleverse vraiment nos cadres référentiels, comme je le disais. Et donc ça va vraiment prendre plusieurs années avant que ce soit le cas.
Alors, au vu du succès du premier conseil, Solvay va décider hein, de créer un institut international de physique. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en prémisse hein, de cette première conférence, il y a eu une rencontre en fait entre Solvay et Oswald. Oswald qui est donc prix Nobel de chimie à l'époque et qui promettait la création d'un institut international de chimie. Cependant, cet institut n'a pas vu le jour, du moins tout de suite. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Tout à fait. Alors ça, c'est, on va dans le détail, mais c'est en fait passionnant. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse aussi en tant qu'historien. C'est qu'au final, on peut dire que la physique a damé le pion à la chimie. Parce que c'est vrai que Oswald, qui est un personnage tout à fait intéressant, qui a été prix Nobel de chimie en 1909, si je ne m'abuse, avait aussi sollicité, presque au même moment qu'Ernst, Ernest Solvay, pour mettre en place un institut de chimie international pour pouvoir travailler et qu'il soit une bibliothèque commune, qu'elle ait lieu à Bruxelles aussi, Solvay a marqué. Ils avaient été très loin dans la négociation. Et au final, c'est la discussion avec Nernst et l'apport et la façon dont cette conférence a fonctionné a fait que Solvay a avant tout mis l'accent sur la physique dans un premier temps. Je crois que, connaissant un petit peu Ernest Solvay, depuis le temps que je m'intéresse à ce personnage, ce qui a déterminé le choix d'Ernest Solvay, c'est d'avoir travaillé avec quelqu'un comme Hendrik Lorentz, encore une fois. Lorentz, ce néerlandais, internationaliste comme Solvay, polyglotte, est vraiment ce que Solvay appelle un facilitateur. Et Solvay a besoin de ce genre de personnage pour aller de l'avant, pour pouvoir s'engager. Ostwald, en comparaison, n'est pas un facilitateur. C'est quelqu'un qui va fixer ses conditions, mettre des obstacles, dire « oui, je suis d'accord avec vous en partie, mais pas complètement ». Et Ernest Solvay, ce n'est pas le genre de type, si je puis me permettre, qui accepte trop qu'on le remette en question. Alors, il va un petit peu mettre de côté l'idée de l'Institut de chimie. Il ne va pas l'oublier, mais il va d'abord privilégier la physique. Et comme étant quand même un grand théoricien et autres, mais pragmatique, il va dire « je vais d'abord voir comment... » des rencontres de haut calibre, de haut niveau en physique vont être déterminantes ou pas et comment ça va fonctionner. Je vais proposer cet institut international de physique qui va financer de manière régulière des rencontres en physique, mais qui va faire aussi autre chose, hein, notamment des subsides pour de l'équipement, pour promouvoir des voyages pour des jeunes chercheurs et notamment pour les physiciens belges. Donc ça, c'est aussi la patte de Solvay d'encourager tous les physiciens au niveau international par l'achat d'équipements ou en tout cas l'emprunt de matériel. Donc il sait que l'équipement, la technologie, c'est essentiel pour les physiciens, mais il va aussi aider les jeunes belges aussi en particulier pour faire de la Belgique, voilà, encore je le disais, un espace un peu plus important en matière de production scientifique. Mais en effet, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est la physique qui est choisie par Ernest Solvay, alors que pourtant il a fait fortune dans la chimie plutôt. Oui, tout à fait.
Alors justement, jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc les conseils sont pérennisés, mais vont forcément faire face au drame de l'époque, qui est donc la Première Guerre mondiale, qui va venir bousculer un peu cet élan de coopération scientifique. Les Allemands vont être un temps exclus de ces conseils scientifiques. Oui. C'est un peu une rupture. Les scientifiques se divisent en quelque sorte.
Ah oui, complètement. Hein. C'est lié à une longue histoire. Dès le début, quelques participants des conseils Solvay signent un manifeste qui est une sorte d'appel aux Belges et aux Français qui, en fait, veut disculper les soldats allemands de ce qu'on appellerait la propagande franco-belge qui tendrait à dire que les soldats allemands ont été à l'origine d'une série d'atrocités, que tout ça est faux, qu'il ne faut pas écouter. En fait, ce sont vraiment des éléments de propagande comme on l'a encore actuellement, hein. Quand on constate le conflit ukrainien et regarde ce qui se passe à ce niveau-là, on a encore des informations, de la contre-information, de la désinformation. Là, c'est la Première Guerre mondiale qui invente un peu ce moment-là. Il y avait quelques bribes de propagande avant. Et donc, tout ça pour dire que ça va directement atteindre également l'esprit, appelons ça comme ça, internationaliste des scientifiques. Et au lendemain de la guerre, quand l'armistice est signé, il se posera la question de savoir si oui ou non on continue d'abord ces rencontres internationales. Et si on le fait, est-ce qu'il faut accepter ou non les Allemands ? Et là, évidemment, il y a plusieurs points de vue. Clairement, Ernest Solvay ne veut pas que les Allemands siègent, en tout cas au début, avec les savants belges et français. Mais, par exemple, des scientifiques neutres, comme Lorentz, hein, qui vient, lui, des Pays-Bas, qui sont restés neutres pendant la Première Guerre mondiale, souhaitent quand même ne pas exclure formellement et à tout prix les Allemands pour que la coopération puisse rester. N'oublions pas que Lorenz s'est intéressé aussi parce qu'il sait très bien que la physique, elle se fait où ? En Allemagne. Hein, c'est là que les grandes innovations se font au niveau théorique. On l'a bien vu avec l'impulsion qui venait de Nernst en 1911. 10 ans plus tard, c'est resté un élément essentiel. Les États-Unis commencent à peine à se développer en matière physique à ce moment-là. Et donc Lorenz lui dit, mais si on coupe l'accès aux Allemands, finalement, l'excellence scientifique de ses conseils va perdre aussi. Donc il essaie de raisonner Solvay, mais finalement jusqu'en 25-26, à l'image de toutes les autres rencontres européennes, il y aura une fracture entre les savants des empires centraux, donc Allemagne, Autriche, Hongrie, qui seront d'un côté, et ceux des pays alliés, France, Belgique, Angleterre, qui iront dans un autre sens. Et les neutres seront un peu au milieu. Ils essaieront de rabibocher les deux avec un petit peu leur intérêt d'être proches plutôt quand même du monde allemand, il faut le dire.
Et Einstein lui-même, qui était invité en 24, va refuser de venir, je pense.
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il explique qu'il ne... Tout en étant tout à fait antimilitariste, et d'ailleurs son attitude durant la Première Guerre mondiale l'a montré, il l'a dénoncé de manière très courageuse, hein. Le bellicisme des Prussiens, il a été vraiment très courageux. Et après la guerre, là, de manière comme un vrai intellectuel, je dirais, il manifeste sa désapprobation d'exclure les Allemands. Il ne veut pas appeler au boycott. Je trouve que c'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui essaye d'être au-dessus de la mêlée, comme disait Romain Rolland à l'époque aussi. Donc c'est vraiment des gens, il y en a peu à ce moment-là, hein, qui essayent de vraiment voir l'intérêt de la science en général. Et en même temps, beaucoup d'autres se disent, mais voilà, la politique a pris le dessus et on ne peut plus, comme avant, faire de la science ou de la communication scientifique sans avoir une charge politique évidemment déjà toujours présente. Donc c'est un vrai débat passionnant, je trouve, cet après-guerre et on le voit en effet dans cette petite vitrine, ce petit microcosme que sont les conseils Solvay.
Et les conseils suivants vont voir arriver aussi une nouvelle génération, notamment avec Heisenberg et Pauli, qui vont arriver en 1927 et ça va créer une sorte de rupture des générations. Einstein lui-même appartient déjà à cette ancienne génération, entre guillemets, à cette époque.
Ah, tout à fait. Alors, c'est ça qui est fabuleux. Hein. C'est ceux qui sont les petits jeunots du début deviennent les seniors dans un second temps. Et il assiste, en effet, à des débats d'idées fabuleux. Hein. Les plus grands conseils ont lieu, en effet, le cinquième conseil de 1927 et puis celui de 1933, qui est très fort aussi, sur vraiment des échanges d'idées très élaborés, avec aussi l'émergence de nouvelles figures. On a parlé de Heisenberg, vraiment, qui est très marquant. Schrödinger est déjà là aussi, avec vraiment des débats beaucoup plus philosophiques aussi, hein, quand même, sur la physique. Et on oublie un grand personnage qui, lui, va aussi révolutionner la théorie physique, qui est Niels Bohr. Niels Bohr qui amène, lui, toute l'école de Copenhague et toute une réflexion qui n'est pas sur la même ligne qu'Einstein et qui tend à le challenger, comme on dirait aujourd'hui. Et donc ça va donner lieu à des débats fabuleux, d'autant plus intéressants qu'on croyait que la grande force et le prestige des conseils Solvay appartenaient déjà au passé. Eh bien, ce n'est pas le cas. En 1927, ils se sont réinventés, tout le monde est présent ou presque. En 1933, on continue et on appuie sur le clou et on voit vraiment à quel point ce format-là fonctionne encore. Donc ça, c'est tout à fait passionnant.
Et c'est là qu'il y a la fameuse discussion entre Einstein et Bohr, qui, Einstein pensant avoir trouvé l'argument suprême pour mettre à mal la théorie de Bohr, en fait, Bohr va prendre des éléments de la relativité générale que Einstein lui-même avait donc mis sur pied pour retourner son contre-argument.
Exactement. Donc, la fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé », voilà, et « Vous ne devez pas dire à Dieu ce qu'il fait », enfin, c'est une phrase mythique. Hein. Les physiciens adorent ces phrases-là. Mais outre les phrases et les petites anecdotes, il y a vraiment cette confrontation au sommet avec des grandes personnalités qui sont des personnages qui, au-delà de la physique et de la science, vont avoir des débats théoriques vraiment fondamentaux et vont inspirer beaucoup de jeunes à travailler sur des questions, quand on sait aussi que bien pas beaucoup plus tard, avec Oppenheimer et d'autres, eh bien la physique devient ce qu'a été la chimie durant la Première Guerre, eh bien la physique le devient durant la Seconde Guerre, un élément très concret et très pratique, je dirais, de confrontation entre les peuples aussi. Et je crois que ça aussi, je trouve que le Solvescence Project, ce qu'on parvient à montrer avec des archives, il faudrait voir. Est-ce qu'on ressent dans les échanges que les différents savants ont entre eux, durant les conseils, même au-delà, parce qu'il faut aussi compléter ça par d'autres archives, est-ce qu'on sent déjà les prémices de cette confrontation et de ce passage à ces bouleversements possibles en matière nucléaire? Ça, c'est une vraie question. Et là, je crois que ça appartient plutôt aux physiciens et aux historiens de la physique qui sont aussi avant tout des physiciens.
Vous parliez du conseil justement de 1933 qui ouais. portait sur la physique nucléaire. Il y avait notamment, on peut mentionner aussi qu'il y avait trois femmes lors de ce conseil,
ben oui,
qui, parce qu'elles étaient relativement peu nombreuses.
Absolument.
Et c'est aussi à partir de là, donc là, je crois que c'est Paul Langevin qui ouais. préside le comité à cette époque. Et c'est aussi là où ça va devenir compliqué justement de continuer à pérenniser ces conseils. On voit que les tendances nationales commencent à un peu se mettre dans le chemin.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il y a cet élément-là qui devient omniprésent. Les années 30 sont des éléments où, en gros, il y a une forme de recentrage ou recentrement sur les questions nationales. Il est clair que 33, bon, c'est quand même une année qu'on connaît bien aujourd'hui, avec quand même un durcissement, une radicalisation des politiques nationales, et en Allemagne en particulier. Il y a un effritement. Il y a un effritement de l'ordre international qui avait plus ou moins fonctionné. C'est un peu facile de dire qu'en 33, on sait que la guerre arrive. Nous, on le sait. En 33, on ne le sait pas, mais on sent bien que le dialogue n'est plus aussi facile. Alors, Paul Langevin, qui est un pacifiste convaincu aussi, qui est dans la lignée d'Einstein sur pas mal d'idées au niveau sociopolitique, n'a pas la fluidité et la facilité de médiation internationale et interculturelle qu'avait Lorenz. Donc ça bloque aussi. Hein. Les années Lorenz sont des années fastes parce qu'on a quelqu'un qui est d'une aisance incroyable. Ernest Solvay n'est plus là, évidemment, mais bon, ça, c'est peut-être pas ça le problème en particulier. On sent très clairement que la jeune génération est beaucoup plus orienté dans la recherche à partir de travaux, notamment sur le plan technique, et qu'il dépasse un peu le côté intuitif dont j'avais parlé, qui était ceux de la première heure. Donc je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais il est clair que là, on assiste à une nouvelle génération qui a repris les travaux des jeunes novateurs et qui les reprend un petit peu contre eux, qui vont un petit peu développer ça. Mais vous avez raison de dire que dès 1933, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste et on assiste en effet à des débats d'idées fabuleux, très intéressants, mais on sent bien que les conseils ne sont peut-être plus le lieu où tout va se faire. Il est clair qu'il faudra d'autres espaces pour se rencontrer, et il va y en avoir d'autres, évidemment. Et évidemment, ce qui va se passer 6-7 ans plus tard, ça va être une catastrophe pour beaucoup d'entre eux. Et de nombreux physiciens vont aussi participer à l'effort de guerre de part et d'autre, du côté allemand comme du côté des alliés. Hein. On pense tous à Fermi, qui était très présent aussi dans les conseils, mais du côté allemand, il y en a aussi. Et donc ça, c'est vrai que ces discussions internationalistes-là qui ont eu lieu, on voit qu'elles ont marqué les esprits, mais aussi quand la guerre a commencé.
Ouais, certains scientifiques vont se mobiliser contre les persécutions que leurs confrères ouais. vont subir, vont quitter leur poste.
Ouais.
Alors on voit aussi que cet effritement dont vous parlez va un peu continuer lors de la guerre froide aussi. Forcément, ça va rompre un peu cette dynamique. Alors on arrive malheureusement au terme de l'émission, mais peut-être qu'en est-il finalement des conseils Solvay aujourd'hui? Est-ce qu'ils se tiennent toujours? Qu'en reste-t-il?
Alors voilà, ils se tiennent toujours. Il faut dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'autres exemples de rencontres, hein, d'autres espaces qui mobilise les scientifiques. On est dans une production scientifique beaucoup plus formalisée, avec énormément de choses, avec les moyens du bord au niveau technique qui font que. Mais les conseils Solvay ont toujours lieu, effectivement, toujours en rotation triennale. Hein, donc, en gros, une année la physique, une seconde année la chimie, une troisième année rien, même si il y a d'autres disciplines qui émergent, hein, la biologie. On entend que de plus en plus, voilà, avec le développement des biotech, eh bien, la biologie devient un élément essentiel. Donc, est-ce que les conseils vont investir et auront lieu en bio aussi? Ça, c'est une vraie question. Hein, c'est en discussion maintenant. Mais donc, ils ont toujours lieu et il y a toujours eu un intérêt, notamment pour des prix Nobel, de faire partie de ces conseils ou de les présider, parce qu'il y a aussi cette histoire. Et cette histoire, les physiciens, les chimistes la connaissent, peut-être pas parfaitement, peut-être pas les dessous des cartes et tout, mais ils savent très bien à quel point ça a été structurant pour leur discipline. Et à ce niveau-là, il y a toujours cette, voilà, cette présence, cette photo iconique qui est gravée dans leur mémoire, et ils se disent autant en faire partie. Ça, c'est aussi une des forces quand même des conseils actuels. Mais attention, les conseils de physique et de chimie parlent vraiment de la chimie, de la physique actuelle, hein, pas du passé. Ça, c'est plutôt les historiens comme moi et mes collègues. Et là, je pense évidemment à toute l'équipe aussi d'archivistes autour de Renaud Bardet, au travail de Brigitte Van Tiggelen, Johanna Alexiou et d'autres qui ont beaucoup travaillé et œuvré encore aujourd'hui à ce qu'on puisse valoriser ces archives. Eh bien, ça, c'est notre boulot à nous, et je crois qu'on est complémentaires avec ce que font les physiciens et les chimistes qui s'y intéressent aussi quelque part, mais dont ce n'est pas le core business, entre guillemets.
Et ces ressources sont donc disponibles en ligne sur le site qu'on mettra sur le lien du podcast. Kenneth Bertram, merci beaucoup d'avoir été ici
merci
avec nous aujourd'hui.
Invitation.
Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur oradio.be, oradio.fr. Encore merci.